Et tout d'abord, merci. Donc, le cours de cette année s'intitule La chimie mésoscopique, donc du nanomatériau au mésocristal. Donc, on va regarder des matériaux dans des domaines de taille que je vais définir plutôt comme des petites tailles. Et en particulier, dans ces systèmes-là, la taille compte énormément. Alors, simplement pour recadrer en fait la taille, lorsque l'on parle déjà d'une toute petite taille comme le nanomètre. Entre le nanomètre et un mètre, le rapport c'est 1 milliard. Et c'est absolument le même rapport que l'on trouve entre la taille d'une molécule de fullerène, de ses 60, et la taille d'un homme. Et c'est également le même rapport que l'on retrouve entre la taille d'une bille, le diamètre d'une bille, et le diamètre de la Terre. Alors si l'on regarde un certain nombre d'objets, en fonction de leur taille. Bon, sur ce schéma, j'ai représenté en fait des objets qui vont, je dirais, de la molécule à des objets macroscopiques. Alors à droite, typiquement, vous avez les objets macroscopiques au minimum, je dirais, millimétriques, centimétriques. Et à l'autre extrémité, vous avez les objets vraiment moléculaires de l'ordre de 0,1 nanomètre, un angstrom, typiquement la molécule d'eau. Et donc on peut donc balayer de l'atomique. De l'atomique au macroscopique, on balaye toute une série de tailles différentes. L'ADN, par exemple, quelques nanomètres. La taille d'un virus, une centaine de nanomètres. La taille des opales, les réseaux d'opales, c'est 500 nanomètres. Et également, bon, la taille des bactéries autour du micron. Alors, la chimie mésoscopique, déjà... Bon, au niveau des définitions, le terme méso, bon, c'est un terme issu du grec mésos, qui veut dire médian, au milieu, intermédiaire. Et c'est déjà un terme qui est utilisé aussi bien en physique, en physico-chimie matière molle qu'en physique. En matière molle, on parle de mésophase, de cristaux liquides, de systèmes qui se situent entre les molécules et les cristaux, aussi bien au niveau des tailles qu'au niveau des comportements. Et en physique, la physique mésoscopique, c'est l'étude des assemblées ou de condensats d'objets nanométriques. Et typiquement, les domaines de taille dans lesquels se définissent en fait à la fois la matière molle et la physique mésoscopique, c'est typiquement 2 nanomètres à 1 micron. Alors, la chimie mésoscopique, eh bien, elle est à nouveau, on la cadre à nouveau dans ce domaine de taille, typiquement entre des domaines de quelques nanomètres à des domaines de taille qui vont à l'ordre du micron et à quelques microns. Alors, ces deux bornes, pourquoi elles sont importantes? Eh bien, la taille micronique, c'est la taille qui est appréhendable par l'homme facilement. C'est-à-dire, typiquement, des objets de quelques microns, un défaut de quelques microns, c'est quelque chose qui peut être observable. Un cheveu, c'est 50 microns de diamètre, donc ce sont des systèmes qui sont observables. De la même façon, si vous prenez un film parfait, et que vous y créez une petite rugosité avec votre ongle, eh bien, à 2-3 microns, vous pouvez avoir cette sensation-là. Donc, c'est le début, je dirais, de ce qu'on appelle le monde macroscopique. Et à l'autre extrémité, bon, c'est le monde des molécules, et en particulier la chimie mésoscopique va débuter légèrement au-dessus, au niveau des tailles des molécules. Alors, pourquoi? Eh bien, d'une part, parce que pour construire en fait cette chimie mésoscopique, on va utiliser des objets qui sont difficilement des molécules parce qu'il faut que ce soit des objets relativement stables. Et dans ces systèmes moléculaires, eh bien, vous avez en particulier dans ces assemblages des labilités des systèmes. Il n'y a pratiquement pas de cœur, il y a essentiellement des atomes en surface. Donc on est, au niveau de l'énergie de cohésion n'est pas suffisante et vous avez des comportements moléculaires. Donc la chimie mésoscopique, ça va être une chimie colloïdale en utilisant des objets dans un domaine de taille entre 2 nanomètres, je dirais, et quelques microns. Vous en avez quelques exemples ici, par exemple des particules d'oxyde de fer ou d'or ou de l'argent qui se situent au niveau des tailles, clairement entre les composants équivalents oxyde de fer ou or natifs qui sont macroscopiques et les espèces moléculaires. Alors, la chimie mésoscopique, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être, d'une part, elle recouvre à la fois, je dirais, la synthèse et l'étude des modes de construction d'objets chimiques dans cette échelle intermédiaire entre 2 nanomètres et 1 micron, pour faire simple, et également l'assemblage de ces objets dans cette gamme intermédiaire. Et elle inclut également, en collaboration avec les physiciens, l'étude des propriétés physiques des matériaux résultants. Alors, ces assemblées mésoscopiques sont très variées. Elles peuvent être à la fois des assemblées poreuses ou relativement denses. Une assemblée mésoporeuse, par exemple, de silice. Ce sont des systèmes que j'ai déjà décrits dans les cours précédents, mais ça peut être également des assemblées avec des briques de construction plus grosses, telles que les cristaux photoniques. Ça, c'est un cristal photonique à base de particules, vous voyez, de 250 nanomètres d'oxyde d'étain. Mais également, ces systèmes peuvent être plus denses, relativement denses. En particulier, ça peut être un pavage, vous voyez, d'objets nanométriques parfaitement réguliers. Et évidemment, la qualité de la brique a son importance dans la construction de ces édifices. Ou ça peut être, par exemple, un objet beaucoup plus complexe. Vous voyez, c'est un cristal, donc là, on a dépassé largement la taille micronique, un cristal de carbonate de calcium, mais qui est lui-même construit à partir de petites entités cristallines avec des formes régulières et dont les unités de base sont de l'ordre de 30 nanomètres en taille. Alors, tout d'abord, je voudrais vous rappeler en fait quelque chose qui s'étudie depuis 50 ans en fait dans les laboratoires, c'est les processus de nucléation et de croissance justement de ces petits objets nanométriques. Alors, la plupart des gens, et en cours, ce que vous avez vu, c'est le fameux modèle de la mère d'Higmar, qui est basé sur le principe suivant. En fait, bon, d'abord, c'est un principe qui met en jeu de la thermodynamique relativement simple, où vous avez, pour former un premier germe et un premier nucléi, il faut que l'entalpie libre du système soit négative, avec un terme de volume, qui dépend de la concentration, qui lui est négatif, et un terme de surface, qui lui est positif. Et donc, c'est la compétition entre ces deux termes qui va permettre, finalement, d'obtenir une entalpie libre négative. Pourquoi la surface, ça coûte toujours de l'énergie? Simplement parce que, imaginez n'importe quel milieu, un liquide le plus simple, vous prenez une molécule au sein du liquide et vous l'emmenez vers la surface, et bien globalement, elle va perdre au moins la moitié de ses voisins. Donc vous avez déjà une perte très claire au niveau de l'énergie de cohésion. Et c'est cette variation de l'énergie de cohésion qui justifie finalement, au niveau énergétique, la valeur de la tension interfaciale. Alors au niveau de la formation du précurseur en solution, ce que vous voyez sur ce petit graphe, c'est simplement l'évolution de la concentration en précurseur de la phase solide. Ça peut être quoi? Ça peut être, si vous regardez une réaction d'hydrolyse condensation, eh bien, ça peut être l'hydroxylation de votre précurseur réactif qui va donner lieu à la phase solide. Et donc, vous augmentez progressivement la concentration en précurseur de la phase solide. Au-delà d'une certaine concentration, vous rentrez dans un régime où vous dépassez la solubilité de ce précurseur, vous sursaturez, et à partir de ce point-là, vous commencez à avoir des conditions de concentration telles que vous pouvez former justement ces nucléi et ces germes. Alors, donc, c'est la limite de solubilité, la saturation critique, formation des premiers germes, et ensuite, vous avez donc une nucléation qui, pour satisfaire au modèle, est explosif. À partir de ce point-là, comme vous avez une partie de la matière qui a été consommée, à condition que le précurseur de la phase solide se forme relativement lentement, vous n'avez plus une concentration suffisante pour former une seconde nucléation. Et à partir de ce point-là, eh bien, vous consommez finalement les précurseurs, les germes consomment les précurseurs, et vous avez une étape qui est essentiellement faite de croissance. Bon, la croissance s'arrêtant dès que vous atteignez finalement la limite de solubilité. Ça, c'est superbe, c'est très beau, c'est simple, ça permet de faire des examens aux étudiants, mais en fait, ça marche, j'irais, une fois sur mille, en particulier pour tous les processus en solution. Et les systèmes sont beaucoup plus complexes. D'une part, c'est très difficile d'obtenir une nucléation unique. Très souvent, vous avez une ou plusieurs nucléations, des cascades de nucléations, ça entraîne finalement des germes de tailles différentes. Et alors ça peut être traité également par le modèle basé sur le mûrissement d'Ostwald. Sur cette courbe, en fait, j'ai représenté le nombre d'anoparticules en fonction du temps et également leur taille. Donc on reprend en fait, c'est une redescription de ces phénomènes. Vous avez une étape d'induction, vous créez en fait des nucléi, et là, à partir de ce moment-là, vous n'avez plus de, la quantité de germes reste constante, puis une étape de croissance, et si les systèmes, la croissance est multiple, c'est-à-dire si vous avez des germes de différentes tailles, eh bien, dans une seconde étape, vous avez une étape de vieillissement, de mûrissement d'Oswald, où les plus gros mangent les plus petits, ça c'est bien connu, même au niveau de la société, je dirais, mais également au niveau des particules, simplement parce que au niveau du gain énergétique, eh bien, vous diminuez la surface en créant des objets plus gros. Donc ça, c'est une façon de voir les choses. Alors, lorsqu'on regarde les modes de croissance des cristaux et des nanocristaux, eh bien, c'est exactement ce que j'ai résumé en fait, sur cette évolution-là. Vous formez des nucléides qui croissent, et la croissance de ces cristaux, vous avez un phénomène d'amplification ces cristaux sont alimentés par tous les précurseurs en solution pour former un superbe monocristal. Hein. Donc dans les cas un petit peu plus litigieux, plusieurs nucléations, vous allez avoir un ensemble de particules primaires qui vont, via le mûrissement d'Oswald, donner à nouveau une distribution de particules où les plus grosses, en fait, sont privilégiées. En fait, ça, c'est un cas sur 1000. La plupart des systèmes sont beaucoup plus compliqués. Et pour vous convaincre, je vous montre ici, sur ce transparent, un bleu de Prusse. Le bleu de Prusse, c'est un ferricyanure de potassium. Un ferricyanure de potassium, oui, pardon. Donc les propriétés sont très intéressantes, non seulement pour la coloration, mais également il y a des propriétés magnétiques très intéressantes. Hein. Lorsqu'on regarde en fait les cristaux qui sont formés, vous voyez, ce sont des superbes cristaux. On va faire de la diffraction à la fois des rayons X et de la diffraction électronique. Et on va se dire, c'est magnifique, on a contrôlé le processus de nucléation-croissance et tout s'est passé comme ça doit se passer, comme c'est décrit dans les livres. En fait, si vous regardez maintenant ce système à différents temps, voilà ce que vous observez. Ça n'a rien à voir, en fait. Ce qui se passe, c'est que vous avez un système qui nuclée, deux particules qui sont loin d'être homodisperses, c'est pas trop mal calibré, et ensuite vous formez, en fait, ces petits cristaux. Ces petits cristaux qui s'empilent, en fait, pour former, vous voyez, de façon régulière, pour former à nouveau des systèmes cubiques qui finissent, après une étape de lissage, par donner l'aspect, finalement, d'un superbe cristal sur lequel on peut faire une physique très intéressante, mais où se cache finalement une chimie et donc une physique beaucoup plus complexe qui est sous-jacente. Alors, finalement, si je résume ça sur mon petit dessin, ça vient à dire la chose suivante, c'est-à-dire que mon système de nanoparticules primaires, eh bien, j'ai des phénomènes d'agrégation ou de collage orienté qui peuvent être isorientés dans les bons cas pour former ces mésocristaux. Et éventuellement, vous voyez, je construis un petit peu mon cristal comme un mur de briques et il peut y avoir une étape de lissage pour cacher finalement les joints. Et ça, la chimie sait faire ça très bien. Je peux avoir également le même mode de construction, mais pour contrôler les faciès et les faces, très souvent on utilise des molécules organiques qui inhibent finalement les modes de croissance selon certaines directions. Et donc, à nouveau, je peux obtenir des assemblages de ce type où je vais, par association finalement de ces blocs, former ce type de mésocristal. Alors, quand j'inhibe des croissances cristallines avec des systèmes organiques, très souvent, en fait, en particulier avec des polymères et des systèmes ioniques, je vais me retrouver dans une configuration dans laquelle, vous voyez, je vais avoir des matériaux qui vont être amorphes. Et là, il va y avoir des phénomènes de digestion-reconstruction pour aller former, en fait, des agrégats avec un peu plus d'ordre. Et dans une dernière étape, il va y avoir fusion et gommage des cristallites. Et vous voyez bien que les propriétés de ces systèmes-là n'ont rien à voir, et au niveau structural et les propriétés physiques, ne vont rien avoir à voir avec, je dirais, ce qui est décrit de façon classique dans les modèles de nucléation et croissance. Et c'est ce qu'on appelle la cristallisation non classique, et en particulier, si vous êtes intéressé, je détaillerai ça dans mes cours, dans les cours suivants, mais il y a une abondante littérature, et l'un des auteurs, je dirais, les plus marquants, en fait, c'est Helmut Kolfen. Alors maintenant, si l'on regarde l'importance de ces assemblées mésoscopiques dans le monde naturel, eh bien, on s'aperçoit que dans le monde vivant, en particulier dans les processus de biomédiarisation, il y a beaucoup de systèmes qui fonctionnent, non pas par des étapes de nucléation et croissance simples, mais justement par des étapes de nucléation-croissance au départ, et ensuite par toute une chimie basée sur des modes d'agrégation. Alors bon, en particulier, bon, les coccolithes, les carbonates de calcium de la ballonne, les diatomées, les carapaces de crabe, vous avez les assemblées mésoscopiques qui forment en fait ces assemblées de cristaux magnétiques dans les bactéries magnétotactiques, l'os compact humain. Alors, le mésochimiste, lui, tout comme la nature, doit être à la fois un architecte et un maçon. Et évidemment, la qualité de sa construction, la forme, vont fortement dépendre de la nature, de la structure de l'abri qu'il utilise, de la forme, de la nécessité ou non d'un liant ou d'un ciment, différents types de modes d'assemblage, la stabilité de la brique, la stabilité du ciment vont être importants, également les forces et les champs mis en jeu. Alors, vous voyez, donc, avec des différents types de construction, eh bien, on va pouvoir obtenir des modes d'association qui vont être différents. Ça, typiquement, c'est de la ballonne. Lorsque l'on regarde en fait, la structure de la ballonne par microscopie électronique, si l'on descend en taille, on s'aperçoit que en fait, la ballonne, vous voyez, par microscopie, est faite de petites plaquettes. Et si on regarde en fait, à nouveau ces plaquettes à une autre échelle, on voit que ces plaquettes sont elles-mêmes formées de mini-plaquettes, de nanoplaquettes, d'aragonite, de carbonate de calcium. Et là, la brique utilisée, c'est une brique, je dirais, un peu standard, avec une forme bien définie. Bon, si je prends cet exemple-là, d'un mur, je dirais, beaucoup plus rustique, eh bien, typiquement, je vais regarder du côté de l'œuf ce qui se passe. Même matériau, à nouveau, c'est du carbonate de calcium, ce n'est pas la même phase, mais c'est quand même du carbonate de calcium. Voici, en fait, une microscopie électronique de la coquille d'œuf à une échelle de 100 microns. Vous voyez, en fait, ce sont des agglomérats agrégés. Et quand vous regardez à une résolution plus élevée, à l'échelle de 100 nanomètres, vous voyez qu'à nouveau, ces agglomérats sont faits de petites briques élémentaires de quelques dizaines de nanomètres. Et donc ça se répercute. Évidemment, la qualité de la brique, la qualité du ciment permettent également d'ajuster les courbures. C'est pour ça que dans le monde biologique, très souvent, en fait, les biopolymères permettent finalement d'ajuster finalement les courbures des briques pour créer des objets avec des formes, je dirais, plus tortueuses. Là, par exemple, vous avez deux objets de synthèse, hein, à nouveau basés sur des carbonates, l'un de calcium et l'autre de barium, vous voyez, avec des formes qui sont beaucoup plus sinueuses, avec des courbures intéressantes. Et ce que je vous montrerai dans le dernier cours de cette année, c'est que finalement, il y a des structures biomorphes qui sont au moins aussi complexes au niveau de la forme, mais qu'on n'a pas besoin forcément de composantes organiques ou biologiques, elles ne sont pas nécessaires pour la construction de ces objets-là. Des séquences chimiques en régulant la croissance, l'organisation et par exemple des paramètres très simples comme le pH permettent également de créer ces formes. Alors, maintenant, je voudrais revenir dans ce cours sur les aspects nanométriques en particulier, puisque dans un premier temps, je vais vous parler des briques. Alors, pourquoi ces systèmes sont particulièrement intéressants et qu'il faut absolument mieux les comprendre? Je dirais, d'une part, c'est pour faire avancer la connaissance, comme tout scientifique. Mieux les comprendre, on peut également espérer en tirer certains avantages sociétaux, et en particulier, on peut en avoir une meilleure analyse et en maîtriser les risques. Également, mieux les comprendre, ça veut dire mieux comprendre pour mieux maîtriser. Et je ne reviendrai pas sur cette liste, mais à nouveau, ça veut dire contrôler les aspects stabilité chimique, contrôler les surfaces, réussir à faire un adressage intelligent des objets, éventuellement les fonctionnaliser et également connaître les forces en présence pour pouvoir faire des assemblages sur mesure. Alors, objets nanométriques, ça veut dire des objets qui ont un rapport surface sur volume qui est très élevé. Alors sur ce transparent, je vous montre simplement une simulation d'un nano-alliage composé de deux métaux, le platine et le palladium. Vous voyez le platine en gris clair et le palladium est en rouge. En fonction de la taille, vous avez la répartition finalement des atomes de surface. Ici, vous avez le nombre d'atomes qui sont entrée en fait de la simulation en fonction de la taille et en fonction, ici vous avez le pourcentage des atomes de surface. Alors ce qu'il faut voir, c'est que lorsque vous atteignez dans ces systèmes-là des tailles inférieures à 3 nanomètres, eh bien, vous commencez à être dans des systèmes où vous avez à peu près la moitié des atomes qui se retrouvent finalement localisés sur la surface. Donc, on pourrait parler d'économie d'atomes, par exemple, pour des réactions catalytiques, mais ce qui est, à mon avis, important de souligner, pour les curieux, je dirais, c'est que c'est justement vers cet endroit-là que les propriétés catalytiques de l'or, en oxydation de CO, sont trouvées. C'est dans cet endroit-là également que les propriétés bizarres magnétiques de l'or sont également trouvées, etc. Donc là, visiblement, lorsque l'on a des systèmes où on a pratiquement la moitié des atomes en surface, on commence à avoir des comportements, je dirais, qui sortent d'un comportement habituel et linéaire. Alors, justement, donc, avoir beaucoup d'atomes en surface, ça veut dire également que, eh bien, vous avez toute une partie de l'énergie de cohésion que vous avez perdue par rapport aux solides massifs. Et donc ça va se traduire forcément par des variations des propriétés physiques du système, et en particulier par une variation des points de fusion. Ce que vous voyez ici, c'est la variation du point de fusion en fonction de la taille. Pour le bismuth métallique massif, une température de fusion aux alentours de 271 degrés. Alors, lorsque vous descendez la taille, vous voyez, à quelques nanomètres, hein, 26 angstrom, eh bien, vous avez des températures qui descendent pratiquement de moitié. Et ceci est vrai pour d'autres métaux, comme l'étain, le plomb, qui diminuent leur température à 60% de celle du massif, lorsque vous atteignez des tailles de 3 ou 4 nanomètres. L'or en particulier, vous voyez, l'or massif a une température de fusion de plus de 1000 degrés. Une température de Taman, c'est la température à partir de laquelle vous commencez à avoir une dynamique intéressante en fait, de votre système atomique. Eh bien, à nouveau, vous voyez que ces deux températures sont diminuées de façon drastique lorsque vous atteignez des tailles de l'ordre de 2,5 nanomètres pour l'or. Et à nouveau pour l'or, c'est une taille un peu charnière vis-à-vis des propriétés du système. Alors, l'intérêt, en fait, justement, de ces nanobriques et de ces nano-objets, je dirais que, d'une part, il y a un intérêt, je le souligne, fondamental, de comprendre les mécanismes chimiques et physico-chimiques qui sont mis en jeu, parce que ça va permettre de maîtriser la synthèse, de calibrer les matériaux, contrôler la forme, la taille, la surface, ce qui va permettre de contrôler parfaitement la brique, et ensuite de contrôler des modes d'agrégation et d'organisation de systèmes plus complexes qui sont les mésostructures. Et ça peut avoir donc des retombées intéressantes dans une meilleure compréhension, par exemple, des processus géochimiques et des processus de biominéralisation. En particulier, avoir des systèmes, des nanobriques, ça présente en fait un certain nombre d'intérêts, puisqu'on peut étudier et exploiter de nouvelles propriétés, par exemple, dues au petit volume. Lorsqu'on atteint des petits volumes, à ce moment-là, je dirais typiquement des volumes en dessous de 10-30 nanomètres, les niveaux orbitalaires ne peuvent plus se décrire comme des bandes d'énergie. En fait, il y a trop peu d'atomes, et à ce moment-là, en fait, ces niveaux orbitalaires deviennent des niveaux discrets, et donc vous avez à la fois l'aspect formation de niveaux discrets, et également l'espacement entre les niveaux augmente, et donc vous avez en fait ces phénomènes de confinement quantique qui sont très fortement utilisés en optique, par exemple, pour créer des quantum dots. Vous avez également d'autres phénomènes dont je reviendrai dans quelques transparents, appelés résonance plasmant, également des propriétés magnétiques particulières dues à des effets de taille. Alors, on peut donc utiliser ces systèmes puisqu'on dispose de très grandes quantités de surface. Ce qui veut dire grande quantité de surface, ça veut dire qu'on va avoir à la fois une réactivité chimique particulière, des phénomènes de diffusion et d'absorption qui vont être exaltés, et ce sont des matériaux qui vont être intéressants en catalyse, en électrochimie, dans les problèmes de transport, dans l'élaboration de matériaux nanocomposites ou de biovecteurs, et ça a déjà un certain nombre de retombées, je dirais, au niveau utilisation sociétale, que ce soit dans l'environnement, pour les catalyseurs, les membranes. Les aspects énergie, je reviendrai dessus, au niveau des batteries par exemple, dans tout ce qui est nanomédecine, les nouveaux nanovecteurs, par exemple pour traiter les tumeurs. Il y a également donc les propriétés mécaniques qui sont très intéressantes de ces matériaux, matériaux densifiés, parce que finalement avoir beaucoup de surface, ça veut dire qu'on va augmenter les défauts et les joints de grain, et ça va permettre donc de, par exemple, de bloquer finalement les dislocations dans les métaux, et donc d'avoir des métaux qui vont être ultra durs avec des duretés à l'échelle nanométrique, enfin, grâce à cette échelle nanométrique, avec des duretés qui vont être 10 fois plus élevées, des céramiques super plastiques avec des plasticités qui vont être meilleures, et également, ça va augmenter via l'introduction de nanocharges dans les polymères, ça va augmenter de façon très conséquente les propriétés mécaniques des polymères. Deux simples exemples, le cuivre qui est beaucoup plus solide lorsque vous utilisez finalement des agglomérats de grains de taille nanométrique, et également un exemple qui est très utilisé, que vous utilisez pratiquement tous les jours sur vos voitures, le pneu vert de chez Michelin, qui a à la fois une résistance au roulement qui est augmentée, tout en gardant une adhérence et une usure qui restent correctes. Et essentiellement, le secret, c'est à nouveau de distribuer finalement des nanocharges de silice bien couplées finalement à un élastomère. Alors, dans la suite de cet exposé, je vais balayer un petit peu, je vais faire ce qu'on appelle un petit peu dans le cadre cinématographique un travelling. Ça s'appelle, je crois, chariotage en français, mais c'est beaucoup moins élégant, pour vous montrer un peu l'intérêt de ce domaine, des nanomatériaux. Je vais balayer, en fait, les nanomatériaux du monde vivant, vous montrer que, finalement, dans le monde vivant sait faire des nanomatériaux et s'en sert efficacement. Également, ensuite, je vais vous montrer l'intérêt de l'or nanométrique, qui était utilisé, je dirais, dès l'Antiquité, qui a été mise en évidence par Faraday, un des premiers nanochimistes, puis en fait l'utilisation un peu plus moderne grâce à la compréhension des phénomènes en fait sous-jacents en plasmonique, l'utilisation ensuite de ces briques de construction nanométrique en nanomédecine pour élaborer des catalyseurs sélectifs avec réactivité exaltée ajustée, et je finirai sur les aspects énergiques, où vraiment arriver sur des nanomatériaux a permis de faire une rupture importante dans le domaine des batteries, en particulier les batteries au lithium. Alors, d'abord dans la nature, je vous rappelle que l'on est tous soumis à au champ magnétique terrestre, hein, qui a un décalage, je dirais, entre l'aimant, en fait, constitué, la Terre peut être assimilée à un gros aimant, et qu'il y a un fort décalage entre, je dirais, les pôles magnétiques et les pôles géographiques. Ce que vous pouvez voir ici, ce sont les lignes de champ, en fait, nord-sud pour le globe terrestre, mais en particulier ici, la représentation, ça représente les vecteurs à la fois intensité et orientation du champ géomagnétique. Alors vous voyez, quand, en gros, le vecteur, quand vous allez vers les pôles les plus forts, ça tout le monde le fait, mais également l'orientation change. Et il y a énormément d'animaux, en fait, je vais vous en montrer un certain nombre, qui se servent finalement justement du champ magnétique terrestre pour s'orienter. Alors l'exemple le plus simple et le plus connu, c'est celui qui concerne en fait les bactéries magnétotactiques. Ce que vous voyez ici, c'est un méso-agrégat bien ordonné de particules magnétiques, de magnétite. Ce sont ces bactéries vivent en fait dans des eaux douces ou saumâtres, et elles se trouvent toujours dans une zone qui est appelée la zone de transition oxyque-anoxique. Ce sont des systèmes où elles ont besoin d'un petit peu d'oxygène, mais de pas trop, et c'est dans cette zone-là également qu'elles trouvent leurs aliments. Alors, pour se guider, en fait, ces bactéries se servent en fait du champ magnétique terrestre, essentiellement donc comme d'une boussole. C'est-à-dire, si vous regardez l'évolution, en fait, le mouvement des bactéries dans la zone nord, elles vont toutes vers le nord, et dans la zone sud, elles vont toutes vers le sud. Mais justement, à cause du décalage entre le pôle magnétique et le pôle géographique, aller vers le nord, ça veut dire plonger, et aller vers le sud, ça veut dire également plonger. Donc, en fait, il y a une force qui les aide, finalement, à descendre, en fait, dans la couche oxycanoxique qui les intéresse, et ceci est contrebalancé, finalement, à l'aérotaxie, qui, en fait, elles peuvent également analyser finalement les concentrations d'oxygène. Et donc c'est avec à la fois le champ magnétique et l'analyse des concentrations d'oxygène que ces micro-organismes s'orientent en fait pour optimiser finalement leur mode de vie. Alors vous voyez, donc ces bactéries utilisent des nanocristaux, hein, ça c'est l'échelle, 100 nanomètres, d'oxyde de fer parfaitement orientés, ce sont des mésocristaux longilignes. Alors, il y a bien sûr des tas d'autres animaux qui se servent finalement des champs magnétiques. Alors, des animaux un petit peu plus, je dirais, avancés et sophistiqués se servent non seulement du champ magnétique comme d'une boussole magnétique, mais également utilisent finalement les informations magnétiques, des informations de position, en particulier en utilisant les orientations et les forces du champ comme une carte magnétique. Alors tous ces animaux, que ça aille du pigeon, du rouge-gorge, la tortue, la chauve-souris, la langouste, le lézard à points rouges, ont des systèmes de nanoparticules qui leur permettent finalement de s'orienter, de se repérer. Alors en particulier, bon, un sujet qui a été beaucoup débattu, c'est celui du pigeon, même si aujourd'hui on n'a pas suffisamment de connaissances pour, je dirais, démontrer et trouver toute la séquence de fonctionnement du mode d'orientation du pigeon. Alors j'ai trouvé en fait, en fouillant un petit peu la littérature, en fait un certain nombre d'arguments qui sont basés sur le concept suivant. Le pigeon dans son bec a un certain nombre de nanoparticules magnétiques, et lorsque, en fait, évidemment il peut s'orienter grâce au fait qu'il vole avec des champs magnétiques différents, lorsque le champ magnétique est parallèle, par exemple à une membrane neuronale, vous avez finalement des clusters superparamagnétiques d'oxyde de fer qui se rapprochent. Ceux-ci, en fait, sont reconnectés à la membrane neuronale via des filaments du cytosquelette, et donc finalement ces canaux ioniques sont totalement obturés. À partir du moment où il y a un changement d'orientation du champ magnétique par rapport en fait au positionnement du pigeon, et bien à ce moment-là le champ peut se trouver perpendiculairement aux nanoparticules d'oxyde de fer, et à ce moment-là et bien vous avez un espacement qui change. Comme ces systèmes-là sont reliés, vous voyez, c'est une vue très simpliste, hein, sont reliés à nouveau par les filaments du cytosquelette, et bien ceci permet d'ouvrir les canaux, et à ce moment-là ça permet de laisser diffuser des ions. Le passage de ces ions à travers les membranes des cellules nerveuses produisent un signal électrique, et ensuite ce signal électrique est utilisé par le pigeon pour communiquer avec le cerveau et le système nerveux. Alors bon, ça, ce genre de schéma un peu simpliste sont relativement acceptés. Ce qui n'est absolument pas compris au jour d'aujourd'hui, c'est cette étape-là, c'est-à-dire comment le pigeon sent vraiment le champ magnétique, comment l'information entre la variation d'un champ magnétique parallèle et perpendiculaire est réellement transmise au cerveau. Alors, on pourra en débattre pendant pas mal de temps. Il y a d'autres modèles qui sont proposés, mais ce n'est pas le but en fait, de cet exposé. Alors, les nanos, dans la nature, ça existe, et c'est très bien utilisé. Les nanos sont déjà au musée. Hein, donc, les nanotechnologies anciennes, c'est un exemple également qui est très connu, c'est celui donc de la fameuse coupe de Lycurgus qui est au British Museum. C'est une coupe dans laquelle, finalement, dans le verre de cette coupe, vous trouvez des nanoparticules, en fait des systèmes à base d'argent et d'or. Mais ce qui est intéressant dans cette coupe et mystérieux, c'est que lorsqu'elle est éclairée de deux façons différentes, la couleur de la coupe n'est pas la même. Lorsque vous mettez une source de lumière derrière, elle semble rouge, simplement parce que la lumière est transmise, elle passe à travers le matériau, il y a une partie de cette lumière qui est absorbée, dans le cas de présent c'est la lumière verte qui est absorbée, donc votre œil voit la couleur complémentaire, essentiellement du rouge. Par contre, lorsque vous l'éclairez simplement par la lumière du jour, à ce moment-là, eh bien la lumière paraît verte, parce que simplement vous réfléchissez la lumière correspondant à la résonance en fait, des nanoparticules de métal qui sont à l'intérieur de la coupe. Alors donc cette recette, voyons Lycurgus, mais en fait quand vous regardez les textes, eh bien vous apercevez que cette recette elle est bien antérieure, elle viendrait des Assyriens, ça a été trouvé mais il y a très 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 longtemps. Alors ça a été utilisé, ces colorations grâce aux nanoparticules métalliques, dans je dirais, un grand nombre d'applications, dans beaucoup d'art verrier du 18e et du 19e siècle, en particulier dans ce qu'on appelle le rose or cranberry, donc ça a été très étudié, également dans les vitraux de certains châteaux, les rouges et violets sont essentiellement à base d'or, alors que les jaunes et marrons sont essentiellement à base d'argent nanométrique. Donc au niveau des technologies, les nanotechnologies sont déjà au musée, donc c'est déjà quelque chose qui date, je dirais. Le virage, en fait, le premier virage important de mon point de vue, c'est la découverte de Michael Faraday, qui déclarait, vous voyez, quand même en 1857, à une conférence de la Philosophical Transaction of the Royal Society, il déclarait la chose suivante, c'est que le phénomène qu'il observait où il voyait en fait des changements de couleur de dispersion colloïdale, était sans doute dû à la variation de la taille des particules. Donc c'était déjà, je dirais, même s'il n'avait pas fait à cette époque-là l'analyse vraiment physique du phénomène, il avait déjà ressenti, pressenti, je dirais, d'où venait finalement l'origine de la couleur. Alors tout ça, ça a été très fortement conforté et développé avec les théories de Maxwell Garnett et de Gustave Mie. Et en particulier, vous voyez ici qu'en fonction de la taille d'une nanoparticule d'or, vous avez un spectre optique, une coloration donc qui se déplace typiquement dans le domaine du visible, mais qui peut aller jusqu'au proche infrarouge. Alors ça, c'est dû à quoi? Et bon, lorsque ça a été compris, la compréhension de ces phénomènes a permis de développer ce qu'on appelle la plasmonique, donc une nanotechnologie moderne, puisqu'on commence à comprendre les choses, on peut donc les modifier et les orienter. Alors qu'est-ce que c'est qu'une réponse plasmon? Eh bien, lorsque vous soumettez un ensemble de particules de petite taille à un champ électromagnétique de longueur d'onde bien supérieure à la taille de ces objets, ce qui se passe, c'est qu'il y a une interaction entre l'onde et les nanoparticules qui sont polarisées par l'onde, et en particulier, vous avez une oscillation collective et en phase des électrons de la bande de conduction autour du métal. Et en particulier, donc, ce phénomène d'oscillation, lorsque il est associé finalement, lorsque la fréquence de ce phénomène d'oscillation se trouve en fait associé à une longueur d'onde de même fréquence, à ce moment-là, il y a un phénomène de résonance qui a lieu, c'est ce qu'on appelle la résonance plasmon, et cette résonance plasmon va donner lieu à une absorption importante dans la partie généralement visible du spectre électromagnétique pour un certain nombre de métaux, comme l'or ou l'argent, par exemple. Alors, cette résonance plasmon va dépendre d'un certain nombre de paramètres, comme la taille. Vous voyez, la variation de taille, vous avez une bande qui se déplace en fonction de la taille, hein, quand vous passez de 10 nanomètres à 100 nanomètres. La forme de l'objet, le milieu, c'est-à-dire le milieu, ça peut être ce que l'on accroche sur la surface de l'objet, comment on l'enrobe ou le solvant, et également l'état d'agrégation. Vous voyez, en fonction de l'état d'agrégation, ça c'est une réponse pour une même taille d'une nanoparticule dispersée ou agrégée, vous avez une variation importante. Variation du milieu, l'air, l'eau ou une coque de silice. Donc ça veut dire que l'indice autour de la particule varie et donc la réponse plasmon est sensible à cet indice. À nouveau, vous avez une variation de la bande d'absorption. Tout ça, ça veut dire qu'il va y avoir une variation de couleur, tout comme ici. Cette variation de couleur, elle est due à une variation de forme. Lorsque vous passez d'une particule sphérique à un petit ballon de rugby à l'échelle nanométrique ou à une tige, vous avez à nouveau un système qui se déplace. Donc, une très grande sensibilité de la réponse plasmonique des systèmes en fonction de tous ces paramètres-là. Donc, ces nanoparticules d'or vont être des sondes très sensibles et très utilisées et très intéressantes. Alors, très intéressantes, les nanomatériaux, pourquoi? C'est parce que, finalement, on va pouvoir les utiliser, c'est ce que je vais essayer de commenter dans la dernière partie de mon exposé, essentiellement ces nanomatériaux dans différents champs d'application. Alors le premier, c'est l'utilisation finalement de nanoparticules, bon, d'or dans les exemples qui vont suivre, mais pas tous, pour la nanomédecine. En particulier, on va pouvoir s'en servir en imagerie, en diagnostic, en photothérapie, en relargage, et également pour faire du relargage contrôlé de médicaments. Et donc c'est justement la sensibilité finalement de la réponse plasmonique qui va permettre finalement cette versatilité. Alors, les objets, les sondes, les nanoparticules d'or peuvent être faites, vous voyez, avec différentes formes. On peut faire des nanotiges, des nanocoques, des nanocages. Et dans les cours prochains, je rentrerai un petit peu plus dans les détails, justement, des modes de construction de ces objets-là. Vous voyez, donc des nanocages, des tiges, des objets en fait avec des formes différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que quand le chimiste sait parfaitement calibrer à la fois la forme, mais également, je dirais, le taux de remplissage de ces nanocages, ça lui permet de calibrer également les réponses optiques. Ce que vous avez ici, vous voyez, c'est la réponse plasmonique de ces objets-là. Alors tous ont été calibrés de telle façon à décaler astucieusement la réponse plasmon dans la partie infrarouge proche infrarouge parce que c'est simplement la zone de transparence des tissus. Donc il faut que votre sonde soit transparente dans les tissus. Alors en choisissant finalement une construction chimique différente, ce que vous voyez ici, c'est que vous pouvez également régler l'intensité de votre réponse placement. Hein? Donc, à nouveau, j'insiste, une très grande versatilité. Et sur les systèmes à base d'or, je pense que Bruno Chaudret vous présentera des choses très intéressantes sur du fer avec des nanocages, je pense. Mais vous verrez que le chimiste sait vraiment contrôler très joliment cette chimie. Alors, évidemment, lorsque l'on parle d'objets pour la nanomédecine, il ne faut pas imaginer la nanoparticule isolée toute seule dans son coin. Elle est très souvent entourée d'une coque parce que cette coque est utile. Donc ici, vous avez un cliché de microscopie électronique où vous voyez la particule d'or ici. Et en vert, vous voyez une sphère de ligand. Alors, pouvoir fonctionnaliser finalement ces nanoparticules, ça permet d'ajuster la réponse. Hein, d'ajuster la réponse parce qu'on va également changer le milieu d'électrique autour de la particule. Ça permet également, vous voyez, cette fonctionnalisation peut être totalement organique, mais elle peut être également minérale. Ce que vous voyez ici, ce sont des tiges d'or entourées d'une petite coque de silice. Donc, à nouveau, ça permet d'ajuster la réponse, mais ça permet également de positionner sur la surface des groupements organiques qui permettent de stabiliser l'ensemble, de l'ancrer ou de cibler finalement une tumeur particulière et également de protéger finalement le nano-objet. Alors ça, ce sont quelques exemples que je rediscuterai dans le cours prochain, plus en détail au niveau des modes de construction. Alors, sur ce transparent, là, ce que je vous représente, c'est trois systèmes de nanoparticules qui sont commercialisés pour les traitements du cancer. Alors, à gauche, c'est une nanoparticule d'or qui est protégée par une couronne pégylée, et ce système est essentiellement utilisé pour de l'hyperthermie. À droite, ici, vous avez un système magnétique. Cette fois-ci, la couronne de protection, ce sont des dérivés d'amylosilane. Et à nouveau, en fait, on peut créer un processus d'hyperthermie en excitant, en fait, des nanoparticules magnétiques via un champ magnétique alternatif. Ici, l'excitation, c'est le plasmon qui permet le chauffage. C'est-à-dire que lorsque vous excitez le système en plasmonique, eh bien, il y a une partie de l'énergie qui passe sous forme de phonons, de vibrations, et c'est ça qui échauffe le milieu. Alors, au centre, ici, c'est un autre type de nanoparticules, des nanoparticules d'oxyde d'hafnium dopées avec des terres rares, qui sont de superbes absorbeurs de rayons X. Et en particulier, ça permet de localiser finalement, lorsque vous avez un traitement par irradiation, ça permet de localiser finalement l'endroit où vous générez les radicaux. Parce que si vous arrosez, quand vous faites un traitement en rayons X, la personne de façon non contrôlée, à ce moment-là, vous allez créer des radicaux moins efficacement, mais sur les molécules d'eau, qui vont commencer à attaquer les molécules d'ADN un petit peu n'importe où, donc vous voyez les dégâts. Alors que là, avec ce genre d'objet, en fait, il va capter l'essentiel. D'abord, vous pouvez travailler à des doses plus faibles, et cet objet va capter justement l'énergie nécessaire à la formation de ces radicaux, mais de façon locale, ces radicaux vont pouvoir être créés. Ensuite, vous avez des modes d'injection, vous voyez, qui peuvent être directement sur la tumeur, ou bien via le système sanguin. Hein? Et donc, quand vous voulez utiliser des modes d'introduction via le système sanguin, à ce moment-là, eh bien la couronne organique et biologique va être un peu plus complexe parce qu'il va falloir que vous, à la fois que vous stabilisiez le système pour pas qu'il ne soit totalement, mangé par le système de défense des macrophages, également vous voulez cibler les tumeurs, donc je dirais que l'ingénierie organique autour de la particule va être un petit peu plus complexe. Alors bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc hyperthermie avec l'or, hyperthermie avec les particules magnétiques et traitement rayons X avec ce système d'absorbeur de rayons X. Ce que vous voyez ici, c'est le système justement qui est traité, c'est une tumeur qui a été traitée à différentes étapes par traitement de rayons X parfaitement localisé sur la tumeur. Et globalement, vous voyez que les tissus autour ne sont pas altérés. Ça permet vraiment d'avoir des traitements beaucoup mieux ciblés. Alors maintenant, je voudrais passer finalement aux deux autres exemples. Nanoparticules pour la catalyse, donc grande surface spécifique, ça permet d'avoir des propriétés catalytiques particulières. Alors l'un des exemples, je dirais, centrale en fait dans l'utilisation des nanoparticules d'or concerne finalement l'utilisation de ces systèmes pour des réactions d'oxydation du CO qui est transformé en CO2, vous voyez, avec des températures très basses, très raisonnables, hein, l'ambiante voire en dessous, avec une efficacité qui est relativement remarquable. Vous voyez ici, ce que vous voyez, c'est le taux de conversion en fonction du diamètre des particules d'or. Et il est clair que, en fait, tout se passe en dessous de quelques nanomètres. Alors bon, il y a un certain nombre de cette activité catalytique exaltée. Aujourd'hui, je dirais que dans ce que j'ai lu dans la littérature, tout, c'est loin d'être bien compris. Ce que l'on sait, c'est que l'or, finalement, au niveau structural, à ces tailles-là, est parfaitement collé sur les supports de TiO2 anatase via des relations d'épitaxis, ce qui lui permet finalement de ne pas s'agglomérer et d'augmenter, de faire des défauts plus grands. Au niveau donc des réactions catalytiques proprement dites, bon, l'absorption de CO sur un métal, je dirais que pour tout chimiste, ce n'est pas ça qui pose un problème. Ce qui est encore mal compris, je dirais, c'est comment fonctionne en fait la partie adsorption, dissociation de l'oxygène dans ces exemples. Alors il y a différentes hypothèses qui ont été formulées, des états électroniques quantiques de l'or quand l'or atteint ces tailles-là, également la formation d'or aux jonctions entre l'or et le substrat de TiO2, la formation d'or monovalent, qui aurait une affinité tout à fait particulière pour l'oxygène. Alors justement, le développement des systèmes nanométriques à l'échelle pour la catalyse, à ces échelles-là, c'est quelque chose qui a été développé déjà depuis un bon nombre d'années. Un second exemple concerne l'utilisation donc de nanoparticules, cette fois-ci de platine pour la catalyse. C'est un travail qui a été fait entre le groupe de Somerjai et Pedong-Yang à Berkeley. Donc dans ce travail, ce que l'on voit, c'est que c'est simplement la croissance de nanoparticules de platine. On part donc d'un sel de platine avec un tensioactif à des températures, vous voyez, assez douces, 50 degrés. Et en fonction de la force du réducteur et du pH, eh bien, on peut de façon quantitative obtenir des particules de taille nanométrique, mais avec des faciès parfaitement contrôlés. Hein, donc dans ce cas-là, on va obtenir des systèmes qui vont être parfaitement cubiques, et dans ce cas-là, des systèmes de type octaédrique, cubo-octaédrique. Et dans le cas où on prend un réducteur plus doux, eh bien, à ce moment-là, vous voyez, on obtient des particules poreuses. Et ce qui a été testé, finalement, ce sont les propriétés catalytiques de ces objets avec des faces parfaitement définies. D'une part, le premier résultat, c'est que ces objets-là ont des activités catalytiques bien supérieures au monocristal massif. Bon, moi, ça, c'est essentiellement dû à des rapports surface-volume qui sont élevés. Mais en particulier, si vous regardez une réaction d'hydrogénation assez simple, celle du benzène qui est transformé via l'hydrogénation en cyclohexane et cyclohexane, ce que vous voyez, c'est que ici, vous avez les réponses en activité de cristaux de platine selon la face qui est exposée. Ici, vous avez les énergies d'activation. Et les systèmes cubiques, pardon, ce ne sont pas j'ai mis octaèdres, mais ce sont des cubes, les systèmes cubiques qui exposent que leur face 1,0,0, vous voyez déjà, vous avez une efficacité qui est quelquefois supérieure à celle du cristal, avec des énergies d'activation plus faibles. Par contre, les systèmes cubo-octaédriques ont également une activité qui est beaucoup plus marquée, avec une énergie d'activation qui est encore plus faible. Maintenant, si on regarde la possibilité de transformation du benzène en cyclohexène, on s'aperçoit que cette fois-ci, bon, les activités sont moindres, mais elles sont beaucoup plus fortes et sélectives lorsqu'on a des cubo-octaèdres, beaucoup plus fortes par rapport à celles du cristal massif. Et cette sélectivité, elle est due finalement à la sélectivité et à la présence en fait, de ces faces 1-1-1 qui sont fortement nombreuses en fait, dans ces systèmes cubo-octaédriques. Alors, ces effets nano sont dus à des rapports surface-volume plus élevés et également à une nature et quantité de phases exposées qui est plus importante. Et en particulier, lorsque vous descendez en fait, l'échelle des objets avec lesquels vous travaillez vers l'échelle nanométrique, eh bien, vous avez simplement un rapport entre atomes de coin et d'arête supérieur aux atomes de plan. Et on sait que ce sont ces atomes-là qui sont les plus réactifs pour les effets catalytiques. Alors, la dernière partie de mon exposé, il me reste une petite dizaine de minutes. Donc, je vais vous parler en fait de l'intérêt des nanomatériaux pour l'énergie, en particulier dans le cadre des batteries au lithium plus précisément. Et donc, ces nanomatériaux ont permis des avancées importantes en fait, à la fois sur la chimie, parce qu'il y a des nouvelles réactions chimiques qui ont été découvertes, et également sur les aspects conceptuels. Donc, ce sont des systèmes qui sont très intéressants et déjà utilisés au niveau commercial. Je vous montrerai quelques exemples. Alors, une batterie, je vous rappelle très simplement comment ça marche. En fait, c'est un accumulateur. Vous avez deux réactions électrochimiques à deux électrodes et vous avez un électrolyte qui va permettre de laisser diffuser des ions. Alors, pendant la décharge de la batterie, eh bien, vous avez l'anode, par exemple, du carbone chargé en lithium qui décharge en fait son lithium. Le lithium passant à travers l'électrolyte vient en fait ensuite s'insérer dans la partie cathode de l'électrode positive pour former ce composé d'insertion. Et dans le même temps, vous avez ce passage d'ions et le passage d'électrons par le circuit externe. Et donc là, la capacité spécifique des batteries va dépendre, je dirais, de la différence de potentiel, des potentiels redox des couples qui sont mis en jeu des deux côtés de l'électrode, du nombre d'électrons mis en jeu et de la masse molaire en fait du matériau. Alors qu'est-ce que ça... Pourquoi en fait il y a eu une rupture très conséquente dans le domaine de l'énergie, lorsque les chercheurs se sont tournés vers les nanomatériaux, simplement parce que très souvent, en recherche, eh bien, il suffit de refuser finalement les paradigmes, les choses qui sont admises en fait, dans les communautés. À l'époque des années 80 à 2000, il y a eu déjà en fait, un grand nombre de développements de batteries au lithium, mais on considérait à cette époque-là que le matériau idéal devait avoir conduction électronique et ionique élevée, diffusion rapide du lithium, des sites cristallographiques vacants, les particules larges pour leur stabilité chimique, pas beaucoup de surface, potentiel redox élevé. Et forcément, lorsque l'on a un tel cahier des charges et un tel taux de conviction, eh bien, on restreint les possibilités. Et lorsque l'on restreint ces possibilités, on trouve un certain nombre de candidats intéressants, vous voyez, des composés d'intercalation du lithium, du cobalt, du nickel, du manganèse, l'optimum sur cette base de matériaux massifs étant en fait cette composition un tiers, un tiers, un tiers, un tiers. Alors ces systèmes-là ont permis finalement les premières avancées en utilisant des matériaux massifs, mais il y a quand même un certain nombre de limites, c'est-à-dire que ces systèmes-là en particulier ne peuvent pas dépasser en fait l'utilisation d'un électron par métal 3D. Alors l'intérêt finalement du nanométrique, c'est un intérêt où on va pouvoir avoir accès à de nouvelles compositions, des structures intéressantes, et en particulier, on va exalter finalement tous les processus de diffusion. Alors, les batteries au lithium nanométriques, donc ça va permettre, ce que je vous disais, des nouvelles réactions, des diffusions plus faciles des ions et des électrons, des grandes surfaces, des nouvelles phases, des contraintes mécaniques qui vont être minimales, mais il va forcément y avoir des inconvénients. En particulier, nanométrique, ça veut dire grand rapport surface-volume, je le répète, donc ça veut dire grande surface de contact, des tas de réactions secondaires et également des difficultés de compactage et de densification. Alors, justement, l'une des contraintes les plus importantes était le problème de stabilité. En particulier, les électrolytes travaillant à des tensions relativement élevées pour obtenir le maximum de puissance intéressante, typiquement un électrolyte travaillant entre 0,4 volts et 3,5 volts, sont très facilement dégradables. C'est-à-dire on dégrade très facilement dans ces conditions-là, et en particulier donc, quand on a des rapports surface-volume élevés, on dégrade d'autant plus facilement. Et donc, je dirais, la première astuce, ça a été de trouver finalement des réactions de surface qui permettent de créer des coques et des protections pour éviter ce genre de réaction, et en particulier ces nanoparticules soumises en fait à différents modes d'emballage permettent finalement de développer des matériaux qui ne subissent pas de façon conséquente ni importante ces réactions secondaires de dégradation. Alors, l'intérêt du nano, justement, c'est, je vous l'ai dit, c'est que les petites tailles permettent finalement d'augmenter les temps, de diminuer les temps associés à la diffusion des ions et des électrons. Donc une électrode dans une batterie, c'est un composite où vous devez à la fois avoir un réseau ionique et un réseau pour laisser passer, je dirais, ou pour convoyer les ions lithium, et un réseau électronique pour convoyer les électrons. Et ces deux réseaux en percolation doivent être optimum. Alors l'avantage de passer au nano, eh bien, c'est assez simple à comprendre, c'est-à-dire que lorsque vous diminuez la taille des objets, par exemple d'un facteur 10, vous voyez que le temps de diffusion varie comme le carré de la taille, donc ce qui fait que pour un objet quand vous passez d'un objet de taille de 2 microns à 200 nanomètres, vous avez simplement, je dirais, diminué le temps de diffusion par 100. Et donc, vous voyez qu'il y a déjà un gain. Et ce gain est capital dans les applications concernées. Hein. Donc, le deuxième problème, ce que je soulevais dans le transparent précédent, c'est de se dire, bon, il y a un deuxième problème, c'est la surface, c'est cette sensibilité de surface. Et puis, ce matériau-là, même s'il est un très bon conducteur ionique, il faut également qu'il soit conducteur électronique. Alors, la solution a été trouvée, vous voyez, par le groupe de Michel Armand, où finalement, en positionnant en fait des sucres sur la surface des nanoparticules et ensuite en les traitant thermiquement, cela permet d'obtenir un enrobage carbone qui a en fait deux avantages. D'une part, c'est un peu un emballage protecteur, et puis dans une deuxième étape, c'est lui qui permet finalement d'assurer le circuit de percolation électrique dans le système. Donc vous voyez, ça, ce sont des nanoparticules entouré en fait par une couche de carbone qui a été obtenue par exemple par pyrolyse de sucre. Alors, l'un des exemples qui montre en fait l'effet magique du passage au nano, hein, c'est le coup de baguette du nano, c'est typiquement le matériau, je dirais, phare, c'est LiFePO4, un matériau peu coûteux et pas toxique, qui avait été étudié, je dirais, à la fin des années 90, mais qui ne présentait pas d'intérêt au niveau massique, parce que c'est un très mauvais isolant, un très mauvais conducteur, c'est un très bon isolant plutôt, un très mauvais conducteur d'ion à l'échelle massive. Et donc les réponses en fait électrochimiques, vous voyez, sont relativement médiocres. Le fait d'utiliser ce matériau à l'échelle nanométrique et enrobé de carbone, ça permet, vous voyez, d'obtenir des variations du potentiel en fonction du taux d'insertion qui sont très très raisonnables dans un domaine, je dirais, à la fois de stoichiométrie et de potentiel qui sont très raisonnables. Hein. Et donc, bon, ça, ce sont d'autres systèmes à base de LiFePO4 avec, vous voyez, des formes, des morphologies qui sont différentes parce que la nanostructure permet également, indépendamment de la taille, d'optimiser les réponses et qui ont permis, vous voyez, de développer des batteries qui sont aujourd'hui commercialisées par A123. Et ces batteries sont utilisées dans différents types d'applications, non seulement, je dirais, dans les applications portables, mais également, elles permettent l'alimentation de certains véhicules électriques. En particulier, là, j'ai trouvé ça sur Internet, le Roadster du constructeur américain Tesla Motors utilise, en fait, ce genre de batterie. Alors, d'autres avancées dans le cadre des batteries au lithium, en particulier du côté des électrodes négatives, en fait, il y a l'utilisation des alliages de métaux avec le lithium est très très intéressante parce que vous voyez qu'au niveau de la quantité d'électrons ou de lithium utilisé, ben, on a un gain qui est clair et très 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 important, il est déjà multiplié par 4. L'un des problèmes de ces systèmes-là, à l'échelle macroscopique, c'est que ces réactions sont associées à des grandes variations de volume. Et donc, c'est difficile à contrôler, justement, avec des matériaux massifs, il y a une décohésion du système, et vous, finalement, votre batterie fait un ou deux cycles et elle est morte. Alors que, justement, le fait d'utiliser des matériaux à l'échelle nanométrique, ça permet, justement, une grande tolérance des variations volumiques, de créer également des nanocomposites. Ça, c'est ce qui a été fait, par exemple, dans les nanocomposites, avec un alliage de cobalt-étain composite au carbone. Et vous voyez à nouveau, en fait, vous avez des gains très conséquents sur les aspects énergétiques. Et à nouveau, c'est une commercialisation qui a eu lieu dans les années 2005 par Sony. Dernier point, et ça sera mon dernier transparent de cours, c'est l'utilisation de nouvelles réactions qui n'existaient pas, qui n'étaient pas utilisées dans le monde électrochimique. En particulier, lorsque vous soumettez des matériaux construits à l'échelle nanométrique, lorsque ces matériaux ne peuvent pas donner d'alliage et ne sont pas des matériaux d'insertion, Il y a un nouveau mécanisme en fait, qui a été trouvé, c'est le mécanisme de conversion qui transforme, vous voyez, des matériaux de composition variée, des oxydes, des sulfures, des phosphures, des fluorures. Il y a une séparation de phase en composés métalliques, en nanoparticules de nickel, cobalt ou autre, et du phosphure, du sulfure de lithium ou de l'oxyde de lithium correspondant. Ça, c'est super intéressant. Pourquoi? D'une part, en fonction du potentiel, eh bien, ces systèmes-là peuvent travailler en électrode négative et ceux-ci peuvent travailler en électrode positive. Deuxième intérêt, la réaction électrochimique met en jeu de 2 à 6 électrons par métal 3D. Donc vous voyez déjà, vous avez un facteur 2 à 6 sur la puissance. Ça, c'est très intéressant également. Donc ça, ce sont des études qui ont été développées par le groupe de Jean-Marie Tarascon. C'est encore à l'étude, je dirais, du niveau du laboratoire, mais c'est très prometteur. Alors, quelles vont être les leçons suivantes très rapidement? La leçon 2, je vais vous parler donc des nanobriques de la palette du nanochimiste en insistant sur certains systèmes à base de métaux et de chalcogénure, en vous montrant en fait comment on peut sculpter des particules, utiliser des réactions en cascade, utiliser de façon très contrôlée les phénomènes d'hétéronucléation pour créer, voyez, par exemple, des systèmes cœur-couronne, des systèmes en alter avec des compositions différentes. Tout ça, c'est à l'échelle nanométrique, ou des systèmes un peu plus compliqués, comme des octopodes. À ce séminaire, à ce cours, va être associé le séminaire de Louis Laurent, qui va nous parler en fait, des nanomatériaux, mais dans un contexte également plus sociétal, sur les risques et les innovations des nanomatériaux. La leçon 3, en fait la leçon 3 en janvier, donc, là je vais plutôt m'intéresser à vous décrire en fait l'importance du couplage chimie-procédé. Parce qu'on ne peut pas décorréler lorsqu'on élabore des matériaux l'aspect chimie de son procédé. Et en particulier, je vous décrirai avec les plus et les moins, je dirais, les différents modes que l'on peut utiliser pour construire des matériaux nanostructurés. À partir de méthodes ascendantes, des méthodes dites de bottom-up en anglais, et sera associé à ce coup le séminaire de Dominique Mailly, qui lui mettra en parallèle les techniques de nanofabrication, donc les techniques physiques, et il vous montrera qu'aujourd'hui, les physiciens aussi savent descendre à des tailles relativement petites, de l'ordre de 10 nanomètres. La leçon 4 sera centrée sur des nanomatériaux exotiques, beaucoup moins courus que les métaux et les oxydes, à base de borure et de nitrure métallique. Et en parallèle à la leçon, il y aura la conférence de Benoît Dubertret, qui lui va essentiellement vous présenter en fait, son travail sur les quantum dots, donc des systèmes à base de chalcogénure, pour des applications optiques, où là il faut vraiment sculpter les systèmes à l'atome près, de telle façon à contrôler au mieux la cristallinité, la surface des objets, de telle façon à augmenter les rendements quantiques au maximum, diminuer les effets de clignotement des objets, etc. Alors, la leçon 5, là, on va rentrer beaucoup plus dans l'aspect méso du système. Et donc, ça va être un cours sur la mésocristallisation et je vous montrerai que ça ressemble à une chimie. Il y a eu une mode sur la chimie supramoléculaire, mais on pourrait appeler ça de la chimie supranano-particulaire. Et bien qu'on soit le 23 janvier, eh bien, vous verrez qu'on peut déjà être dans un mode de réflexion très pascal. Bon, typiquement, vous voyez, ce que je vais vous montrer, c'est essentiellement ça. Je résume le cours en un transparent, mais vous voyez... Ça, à nouveau, ce sont des superbes cristaux d'azide de cuivre, parfaitement cristallins, très jolis, avec une réponse spectrale magnifique. On peut s'arrêter là et faire de la physique extraordinaire. Mais si on est un peu curieux et qu'on commence à faire un petit peu de taille, on s'aperçoit que ces superbes cristaux, eh bien, ce sont finalement des mésocristaux, ce sont des agrégats de cristaux. Alors, la nature a bien fait les choses, la synthèse, on a lissé un peu les faces. C'est comme lorsque vous faisiez un mur, vous pouvez laisser le mur brut ou passer un enduit. Donc là, il y a eu un enduit chimique qui a été passé, il y a vraiment un décalage. Et évidemment, les propriétés physiques qu'on va analyser derrière vont être... l'interprétation, tout du moins. Elle va, si on ne voit pas ça, on peut raconter des énormités. Donc, associé à cette leçon, il va y avoir la conférence d'Ovidiu Hersen, qui est responsable du centre de microscopie électronique à l'IPCMS de Strasbourg. Et là, je pense que ça va être une superbe conférence, parce que tous ces progrès dans la nanomatière, il y a quand même un outil qui a vraiment apporté quelque chose d'extraordinaire, c'est la microscopie électronique et les progrès qui ont été faits dans toute la microscopie électronique. Alors, lui va essentiellement... vous montrer ce que l'on peut réaliser aujourd'hui à l'échelle du nanomètre, à la fois en observation et en analyse, sur des objets nanométriques. Alors, ce que vous voyez ici, vous voyez, c'est un nanotube de métal, non, un nanotube de carbone, pardon, dans lequel on a inclus un alliage platine-ruthénium. Ce que vous voyez à l'extérieur, ce sont des nanoparticules d'or qui servent simplement au calibrage de l'espace géométrique pour permettre la reconstruction. Vous voyez ce genre d'objet que l'on va vraiment analyser, disséquer à une toute petite échelle. Ici, c'est une fibre de silice mésoporeuse dans laquelle on a nucléé en fait, des nanoparticules d'or parce qu'on les a accrochées à des thiols, mais à nouveau, on peut aller regarder à ces échelles-là, en analysant où sont les objets, comment ils sont distribués et comment ils sont positionnés. Donc ça, ça sera la conférence de Vidu-Hersen. Le dernier cours, la leçon 6, alors là, je vais à nouveau, je dirais, vous parler du monde fascinant des mésocristaux en vous montrant en fait les formes diverses que l'on peut obtenir via ces modes d'agrégation ordonnée et en particulier... ce que je vous montrerai, c'est qu'on peut obtenir des formes courbes, des formes très complexes, que dans la nature, eh bien, il y a de l'association entre le minéral et de l'organique ou du biopolymère pour permettre finalement cette torsade, mais qu'on peut faire la même chose, tout inorganique, en contrôlant la séquence des réactions, les gradients de pH,